Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du cours sur les logiques de programme. Donc, à la première séance, on a vu l'apparition de l'idée de la vérification déductive et des logiques de programme dans les articles fondateurs donc de Turing, Floyd et puis Hoare. Et donc aujourd'hui, on va étudier plus en détail donc cette logique de Hoare, issue donc de l'article de Hoare en grande partie, et qui a été étudiée très à fond dans les années 70 et 80 en particulier. Alors pourquoi logique de Hoare ? Est-ce que c'est pas injuste vis-à-vis de Floyd, qui a quand même inventé beaucoup des idées dont on parle ? Alors d'un côté, oui, c'est un peu injuste. De l'autre, c'est vrai que le côté logique, système de règles axiomatiques, c'est vraiment le point de vue de Hoare. Par ailleurs, il se trouve aussi que Floyd n'a pas beaucoup poursuivi ses travaux suite à son article de 67, alors que Hoare a vraiment fait une école avec d'autres grands noms de l'époque, comme Dijkstra, autour de cette approche axiomatique de la vérification déductive. Donc je vous rappelle, au cœur de la logique de Hoare, il y a ces triplets, donc ces énoncés, constitué d'une précondition, d'une commande et d'une postcondition, avec comme signification intuitive, donc si la commande C démarrait dans un état initial qui satisfait la précondition P termine, alors l'état final va satisfaire la postcondition Q. Donc c'est un triplet qui est dit faible parce qu'il ne garantit pas la terminaison, c'est un résultat de correction partielle. Alors il y a aussi des triplets dits forts que je note avec des crochets qui eux garantissent en plus la terminaison, donc la commande C termine toujours et donc c'est un résultat de correction totale. Alors on va spécifier une logique de Hoare pour un petit langage impératif qui s'appelle IMP, qui est un peu le prototype des langages impératifs à contrôle structuré. Donc vous avez des expressions arithmétiques formées à partir des variables du programme et puis de constantes, des expressions booléennes qui servent pour les tests et les boucles, qui sont essentiellement des comparaisons entre expressions et puis aussi des connecteurs, le « et », le « ou », le « non ». Et donc les commandes, ou instructions, ou « statements » en anglais, qui sont alors skip, la commande qui ne fait rien, l'affectation de l'expression A dans la variable X, la séquence de deux commandes, C1 suivie de C2, la conditionnelle, si B est vrai, faire C1, sinon faire C2, et une boucle while, donc qui répète C tant que la condition B est vraie. Donc un langage très simple, en simple construction, mais c'est un peu le noyau de tous les langages impératifs, et c'est aussi un langage qui est Turing complet, donc avec quand même une forte puissance d'expression. Et donc voilà les règles de la logique de Hoare faible pour IMP. Donc on a d'abord une règle par construction du langage de commande, donc la règle pour skip, qui dit que la précondition P, postcondition P, puisque rien ne se passe, rien n'est modifié dans l'état. La règle de l'affectation de Hoare, donc si vous voulez que Q soit vrai après l'affectation X reçoit A, il suffit que Q soit vrai avant, en spécialisant X par A. Pour la séquence, donc si vous avez un triplet pour le C1, la P, C1, Q, avec une postcondition Q qui est aussi la précondition pour C2, alors vous pouvez en déduire un triplet pour l'enchaînement C1 suivi de C2. La règle du IF, qui n'était pas dans l'article de Hoare de 69, est simple. On a deux branches C1 et C2, il faut que C1 est pour postcondition Q, mais dans la précondition, on peut rajouter le fait que B est vrai, puisque la branche Zn, C1, n'est exécutée que si B est vrai. Et de même, pour C2, on peut renforcer la précondition en rajoutant le fait que B est faux, puisqu'il n'est exécuté que quand B est faux. Et puis pour la boucle while, donc on avait vu cette idée que la précondition de la boucle, c'est aussi un invariant de la boucle, c'est-à-dire que le corps de la boucle doit rétablir cette précondition quand il termine, afin que la prochaine itération de la boucle puisse prendre place. Et là aussi, comme le corps de la boucle est exécuté que lorsque B est vrai, on peut l'ajouter dans la précondition, et la boucle ne termine que lorsque B est faux, donc on peut l'ajouter, B est faux, dans la postcondition. Et puis, on a des règles génériques ou structurelles, en particulier la règle de conséquence, qui nous dit que si vous avez montré un triplet, P', CQ', vous pouvez renforcer la précondition, mettre des hypothèses en plus, et affaiblir la postcondition, donc mettre des conclusions en moins, et vous avez encore un triplet valable. Et ça, c'est extrêmement utile donc, pour mettre la précondition ou la postcondition dans la forme qui permet d'appliquer une de ces règles. Alors, petite variante, on peut écrire ça sous forme de deux règles. Une qui va renforcer la précondition, mais pas toucher à la postcondition. L'autre qui affaiblit la postcondition, mais ne touche pas à la précondition. Et bien sûr, c'est équivalent. Si vous avez les deux règles du bas, vous pouvez construire la règle du haut. Et si vous avez la règle du haut, vous pouvez dériver les deux règles du bas. Alors, un exemple de dérivation. Donc, comment est-ce qu'on conclut un triplet dehors ? Ben, en enchaînant les axiomes et les règles. Par exemple, je voudrais conclure qu'après l'affectation x reçoit 0, puis y reçoit 1, on a bien x égale 0 et y égale 1. Bon, il faut commencer petit. Et donc, comment on fait ? Ben, on va avoir besoin de la règle de conséquence, mais donc ici, on va appliquer la règle pour les séquences, puisqu'on a une séquence de deux affectations, avec cette postcondition, la postcondition qu'on veut. Donc ça va nous donner la précondition pour l'affectation y reçoit 1, qui est de la forme x égale 0 et 1 égale 1, qui va, par la règle de la séquence, nous donner la postcondition pour la première affectation, x reçoit 0, qui nous donne comme précondition 0 égale 0 et 1 égale 1, donc ça a l'air pas mal. Et maintenant, on conclut qu'on peut remplacer ça par vrai, la précondition triviale, parce qu'on a cette implication. C'est une dérivation formelle dans le système de règles. On a généralement une notation plus compacte, où on note le programme IMP, en l'annotant avec des assertions, un peu comme des commentaires. Oui, c'est essentiellement pour éviter la redondance ici d'avoir à répéter la précondition et la postcondition autour d'une séquence. Voilà, donc là, elle apparaît qu'une seule fois, comme une espèce de commentaire entre les deux affectations. Et puis là, on a la conclusion du programme, là, on a l'hypothèse, et on matérialise les étapes de conséquence comme des implications logiques. Et avec ça, on peut montrer des programmes un peu plus sérieux. Donc ça, c'est l'exemple de la division euclidienne qui concluait à la fois le papier de Floyd de 67 et le papier de Hoare de 69 et que je trouve assez convaincant. Donc on veut conclure que Q est le quotient de A et de B, R et A modulo B. Donc pour ça, on écrit l'équation d'Euclide, A égale BQ plus R et R est entre 0 et B. Et ça va nous donner pratiquement l'invariant de la boucle. Donc l'invariant de la boucle, c'est bien A égale BQ plus R et R positif. Mais pas encore strictement plus petit que B, vu que le but de la boucle, c'est de décrémenter R jusqu'à ce qu'il soit plus petit que B. Donc ça, c'est l'invariant de boucle qu'on peut propager en arrière à travers les deux affectations. Et là, on a une étape de raisonnement logique donc, qui nous montre que l'invariant et R supérieur ou égal à B rétablit bien ce qu'il faut. Ça nous donne la précondition de la boucle. On passe à travers les deux affectations, ça nous donne une formule ici qui est bien impliquée par juste l'hypothèse 0 inférieur ou égal à A. Donc il faut que A soit positif. En revanche, peut-être ça va être un peu surprenant pour vous, on ne suppose rien sur B. En particulier, B peut être égal à 0, on peut diviser par 0. Et en fait, c'est parce qu'on fait de la correction faible. D'accord ? Si B est égal à 0, cette boucle ne termine jamais. D'accord. Et donc, la postcondition est quelconque. D'accord. Dans un triplet dehors, si la commande ne termine pas, la postcondition peut être quelconque. Et on verra dans quelques transparents comment montrer en plus la terminaison. Et là, il nous faudra des hypothèses en plus. Alors, un petit exercice. Après tout, on peut faire des travaux dirigés, même au collège, je pense. C'est un petit exercice qui montre que ce n'est pas toujours si facile que ça de raisonner en logique dehors, et je l'emprunte à des notes de cours du regretté Mike Gordon à Cambridge. Donc l'exercice est en trois questions. Premièrement, écrire un programme IMP qui met dans X le maximum des valeurs de X et de Y. Question numéro 2, spécifier ce programme en logique dehors, sous forme d'un triplet. Question numéro 3, vérifier le programme vis-à-vis de cette spécification. Bon, moi, monsieur, je sais. Alors, if x strictement plus petit que y, il faut faire quelque chose, x reçoit y, c'est bien y le max dans ce cas-là, sinon ne rien faire, puisque c'est déjà x le max. Il a l'air bien, mon programme. Spécification, eh bien, précondition, aucune, postcondition, x est le max de x et de y. Vérification, alors on applique la règle du if. Donc on a deux, il faut vérifier les deux branches, x reçoit y et skip, montrer qu'elles impliquent bien la postcondition. Et donc dans le premier cas, c'est vrai parce qu'on sait que x est supérieur ou égal à y, donc x est bien le max de x et de y. Et dans l'autre cas, en fait, il suffit de montrer que y égale max de y, y, ce qui est trivialement vrai. Et donc, on conclut par la règle pour les conditionnels. Alors, il y a un petit problème dans ma solution, c'est que, dans mon triplet dehors, ma spécification, c'est qu'elle est satisfaite par beaucoup d'autres programmes. Par exemple, une simple affectation x reçoit y, puisque après cette affectation, x et y ont la même valeur, et donc x est bien le max de x et de y. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Si on affecte x dans y, ça marche aussi si on met 1 dans x et 0 dans y. Et donc le problème, bien sûr, c'est que notre triplet dehors, il ne dit pas ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est que la valeur de x à la fin du programme est le maximum des valeurs de x et de y au début du programme. D'accord ? Et là, on parle des valeurs de x et de y à la fin du programme. Et alors, pour spécifier correctement, on a besoin de ce qu'on appelle des variables auxiliaires ou variables fantômes, auxiliary variables ou ghost variables dans la littérature. Les deux termes sont souvent employés de manière interchangeable. Là, je vais essayer de faire une petite nuance entre les deux. Donc, une première solution à base de variables auxiliaires, c'est d'utiliser donc des variables mathématiques, alpha, bêta, gamma, qui sont dans les assertions, qui sont distinctes des variables du programme x, y, z. D'accord ? Je suppose que mon langage de programmation n'accepte pas Unicode, donc le grec, c'est des maths. Et du coup, je peux écrire une spec comme ça. Si x égale alpha et y égale bêta avant, alors x égale max de alpha et de bêta après. D'accord ? Et comme, encore une fois, ce sont des variables mathématiques, ce ne sont pas des variables du programme, il n'y a pas à se poser la question est-ce qu'elles sont modifiées par l'exécution de C. C'est juste pas possible. Et ces variables auxiliaires sont quantifiées universellement, alors implicitement ou pas, en tête du triplet. Donc quand on écrit ça, en fait, on veut dire pour tout alpha, bêta, ce triplet est vrai. Et alors une autre manière de faire ça, les variables fantômes, c'est de spécifier en utilisant des variables du langage de programmation, mais qui n'apparaissent pas dans la commande, dans le programme qu'on va spécifier. Par exemple, on va inventer une variable z qui n'apparaît pas dans notre code C, et dire que si x est égal à z avant, alors x est égal au max de z et de y après. D'accord ? Et là, l'argument, c'est que pendant l'exécution de C, ces variables gardent leur valeur, puisqu'elles n'apparaissent pas, elles ne sont pas affectées. Donc c'est un autre moyen pour parler de l'état avant dans les post-conditions. Donc quelques mots sur la logique forte, celle qui permet de montrer la terminaison et donc la correction totale. Donc voilà les triplets. Pour les distinguer donc, des précédents triplets, j'ai mis des crochets au lieu des accolades autour des préconditions et des post-conditions. Et donc là, la signification intuitive, c'est que si vous démarrez la commande C dans un état initial qui satisfait P, alors C termine forcément et son état final satisfait Q. Alors remarquez que dans IMP, la seule cause de non-terminaison, c'est les boucles. Si vous enlevez les boucles, d'accord, vos programmes terminent tous. Et donc, pour les constructions d'IMP différentes de la boucle, les règles fortes ont exactement la même structure que les règles faibles. Par exemple, pour la séquence, d'accord, une séquence C1, C2 termine, si C1 termine et C2 termine, et ça va être garanti par les deux hypothèses, PC1Q et QC2R. Même chose pour un if, et puis une affectation et un skip, ça termine toujours. Donc toute la difficulté est dans la boucle while, donc il faut trouver un moyen de garantir la terminaison de la boucle, et la technique la plus utilisée, c'est la technique du variant. Alors, ce n'est pas variant au sens du variant anglais et du variant sud-africain du coronavirus, c'est variant par symétrie avec invariant. Donc, dans les boucles, il y a des invariants, qui sont des propriétés qui aident à montrer la correction partielle de la boucle, et puis il y a un variant, ou plusieurs, qui sont des choses qui changent pendant l'exécution de la boucle, mais qui décroissent. Donc, c'est typiquement une expression à valeur entière positive, et qui va décroître strictement à chaque tour de boucle. Et c'est ça qui nous garantit la terminaison, puisqu'il ne peut pas décroître infiniment. Donc on écrit ça avec une de ces variables auxiliaires. Donc si, en précondition de C, le variant A a une certaine valeur alpha, alors en postcondition, il faut que le variant A, qui est une expression du langage, ait une valeur strictement plus petite que alpha, mais toujours supérieure ou égale à 0. Et ça vous garantit la terminaison de la boucle, au plus n itérations, où n est la valeur initiale du variant petit a. Et alors, il y a quelque chose de très joli dans cette règle, c'est que si vous avez des boucles imbriquées, on va vérifier la terminaison de chaque boucle indépendamment. D'abord, on vérifie la terminaison de la boucle interne, puis, en s'appuyant là-dessus, on vérifie la terminaison de la boucle englobante. Et ça, c'est différent de l'approche de Turing ou de Floyd, qui, eux, travaillaient sur des graphes de flot de contrôle, et donc il y avait une espèce de critère global de terminaison. D'accord ? Et c'est plus difficile à mettre en place, en particulier quand on a des boucles imbriquées. Alors, je vous avais promis une vérification de la terminaison de la division euclidienne. Donc, le variant, c'est la variable R, qui commence à A et qui, on l'espère, décroît à chaque tour de boucle, et puis reste positif. Donc là, j'ai mis la vérification du variant, d'accord ? Donc, le fait que si R vaut alpha au début, alors R vaut strictement moins que alpha à la fin du corps de la boucle. Mais pour ça, bien sûr, il faut que B soit strictement positif, le diviseur soit strictement positif, sinon on ne va pas décroître et la boucle ne termine pas. Et donc maintenant, on a une correction totale pour l'algorithme de division euclidienne avec les hypothèses auxquelles on s'attend. Donc le A est supérieur ou égal à 0 et le diviseur B est strictement supérieur à 0. Alors bien sûr, un seul variant, ça ne suffit pas toujours. Il y a des boucles un peu compliquées où, comme Floyd l'avait suggéré dans son article, on peut avoir besoin d'un n-uplet de variants. Un ordre plus riche que l'ordre sur les entiers, et c'est typiquement l'ordre lexicographique sur les n-uplets d'entiers. Et donc, on a plusieurs variantes, A1 à n, et une exigence, donc le tuple A1 à n décroît strictement dans un certain ordre bien fondé sur les n-uplets d'entiers. Et avec ça, on montre à peu près toute la terminaison de tous les algorithmes classiques. Voilà, donc ça conclut la définition d'une logique de Hoare de base pour IMP. Maintenant, on va l'étendre de plein de manières différentes. Vous allez voir que c'est tout à fait riche ce qu'on peut faire avec ça. D'abord, on peut ajouter des constructions dérivées, du sucre syntaxique, et puis des règles pour ces constructions dérivées. Par exemple, la conditionnelle sans else, donc le if-then, qui est juste du sucre syntaxique pour un if, base, and c, else, skip. Ben, on peut bien sûr lui donner cette règle, d'accord, celle qui dit que C, la branche Zn, doit vérifier ce triplet, P, B, C et Q, et puis la branche else, qui n'est pas là, donc doit quand même vérifier cette implication. P et non B implique Q, parce que du coup, on peut effectivement dériver cette règle à partir des règles de la logique de base. Je vous ai montré la dérivation ici, mais je ne vais pas la lire. De même, on peut se donner une boucle do while, avec test à la fin. Donc, d'où C, while B, c'est l'équivalent de C, puis while B, d'où C. Donc, le corps de la boucle C est exécuté au moins une fois. Et on peut, là encore, lui donner une règle dérivée. Donc, le C doit vérifier un triplet de la forme P et B, C et P, où P est l'invariant de boucle. Et du coup, on a cette précondition, cette postcondition pour la boucle do while. Un peu plus intéressant, une boucle comptée for, donc for i variant de l à h faire c, et qu'on peut bien sûr implémenter sous forme d'une boucle while. D'accord, on commence avec i qui est à l, et tant que i est inférieur ou égal à h, on fait c et puis on incrémente i. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en écrivant ça sous forme d'une boucle for, on peut espérer avoir la terminaison. Avoir une règle forte, puisque on va faire un nombre, a priori, un nombre déterminé à l'avance de tour de boucle, qui est h-l. Mais, attention, le corps de la boucle pourrait aussi modifier lui-même i ou h, d'accord ? Par exemple, incrémenter la borne haute de la boucle à chaque tour de boucle, ou bien baisser i à chaque tour de boucle, ce qui fait qu'en fait, la boucle ne terminerait pas. Et donc, il faut une hypothèse supplémentaire, que l'indice de boucle i et la borne supérieure h, la borne haute h, que je suppose être une variable, ne sont pas affectées par la commande c. Et donc, à ce moment-là, on peut effectivement montrer ce triplet, qui est plutôt joli. Donc, si c termine, avec comme précondition p et i inférieur ou égal à h, et puis comme postcondition p où i a été incrémenté, alors p pour i valant la valeur initiale l, comme précondition, vous donne la terminaison dans un état où on a p et i strictement supérieur ou égal à h. Et le variant, bien sûr, c'est l'expression h moins i plus 1, qui décroît de 1 à chaque tour. Alors revenons sur l'affectation. La semaine dernière, on avait vu donc les deux règles d'affectation, celle de Floyd, qui plutôt part d'une précondition et essaye d'inférer la postcondition, et puis celle de Hoare, qui part de la postcondition et infère une précondition. Et en fait, l'affectation à la manière de Floyd est dérivable de l'affectation à la manière de Hoare. D'accord ? Donc ceci est une règle valide. Alors on reconnaît hein, le traitement de Floyd, où on dit bon, il y a une x0 qui est l'ancienne valeur de x avant l'affectation, telle que la nouvelle valeur de x est a, dans lequel x est remplacé par x0, et la précondition p est vraie de x remplacé par x0. Et la démonstration, ben, c'est simplement de prendre q comme postcondition, qui est ce truc-là, d'appliquer la règle de Hoare, et de montrer donc, que p implique q où x est remplacé par a, et ça c'est un petit calcul de substitution, et puis on finit en disant ben, il n'y a qu'à prendre x0 égale x, et il existe est trivialement satisfait. Bon. Quelques règles admissibles. Alors la différence entre une règle dérivée et une règle admissible est un peu subtile. Donc une règle dérivée, c'est qu'il suffit d'appliquer un nombre fini de fois les règles existantes et puis on obtient une justification de la nouvelle règle. Une règle admissible, c'est une règle qui n'est pas contradictoire avec ce qu'on a déjà, et en particulier parce que si on a des dérivations. Alors, un exemple de règle admissible, c'est le E. D'accord ? Si vous avez deux triplets pour la même commande C, P1, C, Q1, P2, C, Q2, vous pouvez en conclure qu'avec précondition P1 et P2, on a aussi la postcondition Q1 et Q2. Et comment on fait ça ? Typiquement, ben, on suppose qu'on a des dérivations de ces deux énoncés, et on va faire une récurrence, ici sur C, et puis des inversions sur ces dérivations, on va reconstruire une dérivation qui nous permet de conclure ça. Bon, donc c'est un petit point technique, mais juste pour dire que donc, ces règles, on peut les ajouter, elles sont valables. Donc il y a la règle qui permet de prendre la conjonction de deux triplets, la règle qui permet de prendre la disjonction, P1 ou P2 en précondition, Q1 ou Q2 en postcondition, et puis les équivalents pour des quantifications existentielles sur une variable qui apparaît dans P et dans Q, ou une quantification universelle. Alors il y a un petit piège quand même, il faut ici que la quantification soit non vide, sur un ensemble non vide, sinon c'est plus tout à fait vrai. Voilà, donc ça c'était quelques extensions qu'on pouvait faire, quelques ajouts qu'on pouvait faire assez facilement. Maintenant, regardons comment on peut ajouter aussi des choses dans le langage de programmation, le rendre plus expressif, et comment ajouter des nouveaux traits, et comment écrire, postuler les règles qui vont bien. Par exemple, le contrôle non structuré, donc le go-to. D'accord ? Alors, ce fameux article d'Eichstra, « Go to considered harmful », qui est vrai pour plein de raisons. Étonnamment, ce n'est pas très difficile à ajouter à une logique de programme. D'accord ? Donc, au niveau du langage, on se donne la construction « go to L », où L est une étiquette, et puis la possibilité d'étiqueter une commande C. Et l'idée, simplement, c'est dans la logique d'ajouter un invariant, grand L de petit l, à chaque étiquette petit l. Du coup, nos triplets deviennent plutôt des quadruplets, cet ensemble d'invariants et fait partie du triplet. Et à quoi il sert ? Ben, il sert comme précondition pour le go-to. Il faut être sûr qu'au moment où on va faire le go-to, l'invariant associé est vrai. Du coup, la postcondition peut être fausse, puisqu'on ne va pas terminer normalement. D'accord ? On ne va jamais exécuter ce qui suit le go-to. Et puis, cet invariant L de L, il sert aussi de précondition aux commandes C qui sont étiquetées par L. Puisqu'on peut rentrer dans cette commande C soit normalement, donc par un code qui doit satisfaire L de L, soit par un go-to, mais qui lui aussi doit satisfaire L de L. Bon. Voilà. Et donc, cette logique de Hoare, elle permet aussi tout à fait, étendue, elle permet aussi tout à fait de faire des trucs à la Floyd ou à la Turing sur des organigrammes. D'accord ? Vous mettez juste des go-to là où ça va bien. Et voilà. Autre extension intéressante, c'est le non-déterminisme. Donc l'idée, c'est de refléter le fait que certains programmes ont plusieurs comportements différents. Par exemple, parce que votre langage de programmation n'est pas complètement spécifié, il y a des choses comme ça dans C, où l'ordre d'évaluation n'est pas spécifié complètement. Ça peut être aussi parce que vous avez pas, un générateur pseudo-aléatoire ou quelque chose, ou enfin bref, une source de non-déterminisme externe. Alors, il y a plusieurs manières d'étendre le langage pour faire apparaître du non-déterminisme. Il y a la construction de choix. Le choix entre deux commandes, c'est un ou c'est deux, où le programme décide d'exécuter ou bien c'est un ou bien c'est deux. Il y a une espèce de truc qui ressemble plus à un tirage au sort, qui est le programme choisit une valeur entre 0 et n-1 et la met dans la variable x. Et puis, il y a la forme la plus primitive qui s'appelle havoc de x, qui met un nombre quelconque dans x. Qu'est-ce que veut dire havoc? Je crois que ça vient de l'expression anglaise to wreak havoc, qui veut dire semer le chaos, semer le désordre. Donc voilà, donc là, on met le désordre dans la variable x, et c'est une source de non-déterminisme. Et en fait, on peut déduire toutes les autres constructions du havoc. D'accord, le choose, on peut dire qu'on fait un havoc et puis qu'on prend la valeur en modulo n, alors si votre modulo se comporte comme il faut. Pour faire le choix entre deux commandes C1, C2, ben on peut choisir un nombre entre 0 et, enfin, qui est 0 ou 1, et puis s'il est 0, faire la première commande, sinon faire la deuxième. Et puis pour choisir un nombre entre 0 et n, on peut exécuter l'une des affectations x reçoit 0 ou x reçoit 1 ou x reçoit n-1. Donc tout ça est interdérivable, et tout ça a des règles en logique de Hoare qui sont très simples et tout à fait élégantes. Pour le choix, il faut que les deux branches du choix satisfassent les mêmes préconditions et postconditions. On ne sait pas laquelle va être exécutée, mais on sait que les deux vont fournir la bonne postcondition. Alors pour choose, il faut un axiome. Alors on peut dire que c'est une espèce de généralisation de l'affectation. Puisqu'on affecte soit 0, soit 1, soit n-1, il faut qu'en précondition, on ait que q soit vrai de 0 ou q soit vrai de 1 ou q soit vrai de n-1. Est-ce que c'est des ou, est-ce que c'est des et? J'ai un petit doute là. Oui, ça devrait plutôt être des et. Je corrigerai les transparents. Et une autre manière, voilà, c'est de dire que la postcondition Q doit être vraie, pas pour tous les X, mais pour tous les X qui prennent une valeur alpha entre 0 et n. Bon. Et alors pour havoc, c'est un peu pareil, sauf que là, il n'y a même pas de contrainte sur la nouvelle valeur que va prendre X, et donc la précondition, c'est Q doit être vrai pour X remplacé par alpha pour un alpha quelconque. Et alors, il y a une manière encore plus insidieuse d'écrire ça, qui est d'écrire que Q doit être vrai de X remplacé par une variable du programme Y, qui, à condition qu'elle n'apparaisse pas dans l'assertion Q. Donc, étant donné que c'est une variable qui est non contrainte, elle peut avoir n'importe quelle valeur, et donc ça a le même effet qu'ici. Bon, je trouve quand même que c'est plus lisible avec un pour tout explicite. Alors, un autre trait des langages de programmation qu'on peut vouloir introduire dans IMP, c'est la possibilité d'échouer pendant l'exécution. D'accord ? L'erreur à l'exécution, runtime error. Alors, une manière simple de l'introduire, c'est d'avoir des assertions dynamiques, donc une construction assert. Généralement, donc, dans les langages de programmation, assert, ça prend une expression booléenne en argument. Et donc, on peut faire de la vérification dynamique, évaluer le B à l'exécution, arrêter le programme si B est faux. Et en fait, si on fait de la vérification statique, on peut même mettre comme assertion, donc une assertion logique quelconque, avec des pour-tout, des il existe, des choses pas forcément calculables. Parce qu'on a envie quand même que notre vérification déductive garantisse l'absence d'erreur à l'exécution. Et donc, garantisse que le B booléen ou le A logique sont toujours vrais. Et pour ça, on a une règle très simple. Il faut que la précondition de l'assertion A implique A. Donc, par exemple, qu'elle soit de la forme P et A. Et du coup, la postcondition, c'est la même chose, vu que l'assertion ne modifie aucune variable. Alors, un exemple important d'erreur à l'exécution, c'est l'erreur dans les calculs arithmétiques. Par exemple, une division par zéro. Division entière par zéro, qu'est-ce que ça fait ? Ou un débordement arithmétique, aussi, dans certains langages. On peut, étant donné une expression, caractériser l'absence d'erreur par un prédicat, par une assertion, def de A. Par exemple, donc une constante est toujours définie, une variable est toujours définie, on va dire, dans notre langage IMP. Mais, par exemple, une addition à 1 plus A2 est définie, seulement si A1 est défini, ne fais pas d'erreur, A2 est défini, et la somme mathématique à 1 plus A2 ne déborde pas, donc est dans l'intervalle min-max des valeurs représentables. Même chose alors pour la division, où là, on va rajouter en plus une contrainte que le diviseur A2 est différent de 0. Et ainsi de suite. D'accord. Donc ce def qui s'applique aux expressions arithmétiques, aux expressions booléennes, collecte toutes les contraintes qui disent que l'expression s'évalue sans erreur. Et du coup, dans les règles de la logique, on peut ajouter des préconditions qui exigent que les expressions s'évaluent sans erreur. Par exemple, dans la règle d'affectation, il faut que le membre droit A soit défini. Dans la conditionnelle, il faut que le test B soit défini, puisqu'il peut contenir lui-même des divisions par zéro ou des choses comme ça. Et dans la boucle while, il faut aussi que la condition, le test B soit bien défini à chaque tour de boucle. Voilà, donc ça rend déjà le langage un peu plus réaliste, et la logique aussi. Et maintenant, il est temps de parler un peu de sémantique. Donc de faire des liens entre la logique, les axiomes et les règles d'inférence qu'on a posées, et puis une sémantique opérationnelle des programmes. Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on exécute les programmes? Alors on va commencer par la correction. Donc la correction, c'est cette idée que si la logique prédit, par exemple, que le programme s'arrête avec A supérieur ou égal à 0, eh bien ce sera vrai de toutes les exécutions. Mais alors avant de pouvoir vraiment énoncer la correction, il faut revenir un petit peu en arrière et préciser deux ou trois choses. En particulier, qu'est-ce que c'est qu'une assertion et quelle logique on utilise en fait. Donc, dans la vision de Hoare, il y a une logique sur mesure spécifique au langage de programmation utilisé qui parle directement des variables du programme, x, y, z, et aussi des opérateurs du langage de programmation, le plus sur les entiers, le AND des expressions booléennes. Et du coup, une assertion, c'est une proposition dans cette logique. Donc ça, c'est élégant, mais ça demande beaucoup de travail. Définir une logique, c'est du boulot. Et rappelez-vous l'article de Hoare où il essaye de définir juste assez de l'arithmétique pour pouvoir prouver son programme. On se dit que s'il faut définir nous-mêmes toute l'arithmétique de notre langage, ça va être vraiment beaucoup de travail. Donc l'approche plus moderne et plus pratique aussi, c'est de dire non, on va se ramener à une logique standard, une logique sur étagère, si j'ose dire, ou par exemple la logique du premier ordre avec de l'arithmétique entière, éventuellement réelle, si on veut parler de virgule flottante. Et du coup, cette logique, elle connaît rien de notre langage de programmation, mais on va quand même s'en servir pour parler, en particulier des variables du programme et des opérateurs du langage, via une traduction. Donc, nos assertions vont être traduites en prédicats sur l'état mémoire dans cette logique standard. Alors, l'état mémoire, c'est quoi? Notez S comme store en anglais. C'est un objet sémantique qui associe une valeur à chaque variable du programme. Donc, c'est la valeur courante de chaque variable. Et du coup, si vous avez une assertion P qui porte sur des variables x, y du programme, c'est vu comme un prédicat sur l'état mémoire S. Donc P prend un S en paramètre. Alors je note ça avec des crochets pour dire c'est l'interprétation de l'assertion. Donc l'interprétation de l'assertion P dans un état S, c'est P vu comme une formule logique, où on a remplacé toutes les occurrences de X par S de X, donc c'est la valeur courante de X, les occurrences de Y par S de Y, etc. Et donc par exemple, si on a écrit 0 inférieur ou égal à x strictement petit que y comme assertion, c'est en fait le prédicat lambda s, donc je prends l'état courant s, 0 inférieur ou égal à s de x strictement plus petit que s de y. Et ça, c'est une formule de l'arithmétique normale. Alors, il faut aussi savoir ce qu'on fait quand on a des expressions, parce que, rappelez-vous, la règle de l'affectation, elle substitue une variable par une expression dans une assertion, donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire là aussi. Donc pour les expressions, on suppose donner une sémantique dénotationnelle. Donc chaque expression est interprétée comme une fonction, crochet de A, qui, étant donné l'état mémoire courant, vous renvoie la valeur de l'expression. Donc typiquement, la dénotation de X dans S, c'est S de X, la valeur courante de X. La dénotation d'une constante, c'est la constante. La dénotation du plus du langage, c'est le plus des dénotations, mais c'est le plus qui n'est pas forcément le plus de l'arithmétique. D'accord ? Si vous avez une arithmétique modulo de puissance 32, qui arrive dans des langages comme Java, vous allez dire que le plus, c'est en fait la normalisation de la somme n1 plus n2, normaliser étant ramener le résultat dans l'intervalle 0 de puissance 32 ou moins de puissance 31 de puissance 31 en prenant modulo de puissance 32. Même chose pour la multiplication et pour d'autres opérations arithmétiques. Donc voilà, donc il y a une double traduction, d'abord pour accéder aux valeurs des variables et éventuellement pour refléter les bizarreries de l'arithmétique de votre langage sous une forme mathématiquement précise. Et du coup, la substitution, x devient a dans q, c'est un prédicat, c'est le prédicat q, dans lequel on a remplacé s de x, toutes les occurrences de la valeur de x par la dénotation de a. Plus exactement, on a remplacé la dénotation de x dans s, crochet xs, par crochet as. Donc par exemple, x strictement plus petit que 10, dans lequel vous remplacez x par x plus 1, ça va devenir dénotation de x plus 1 de s strictement plus petit que 10, c'est-à-dire s de x plus spécial 1 strictement plus petit que 10. Alors, ça a l'air un peu ad hoc comme définition, mais elle satisfait cette équation qui est très jolie, qui est que donc ce prédicat Q ou X remplacé par A est vrai d'un état mémoire S, si et seulement si le prédicat Q d'origine est vrai d'un état mémoire de l'état mémoire S où on a remplacé X par la dénotation de A dans S, donc où on a fait l'affectation. Et ça valide sémantiquement la règle de Hoare pour l'affectation. D'accord, ça vous dit la précondition est vraie dans l'état initial S avant affectation, et ça vous dit la postcondition est vraie dans l'état après affectation. Voilà, et pour en finir avec ces expressions, si on a des erreurs dans les expressions arithmétiques, la dénotation d'une expression, ça peut être soit une valeur, soit erreur. L'assertion substituée exige en plus que la dénotation de A dans S ne doit pas être une erreur. Et ça, en fait, ça va être impliqué par l'assertion d'f de a. D'accord ? Donc, il faut que l'assertion d'f de a, si elle est vraie, garantisse que a s'évalue sans erreur. Et ça valide l'autre règle d'affectation, celle qui, en plus, exige que le membre droit est bien défini. Bon, voilà qui précise un peu les choses pour ce qui est des expressions arithmétiques et de leur traitement. Maintenant, on attaque le gros morceau, qui est la sémantique des commandes. Donc il faut donner une sémantique opérationnelle à notre langage, ou commande, qui puisse traiter un certain nombre de traits du langage. D'abord la divergence, le programme peut ne pas terminer parce qu'on a des boucles while générales. On a vu, et on peut avoir des erreurs à l'exécution, division par zéro, assertion dynamique qui échoue. On peut avoir du non-déterminisme, le choose, le havoc, etc. Et donc parmi les différents styles de sémantique, et si vous voulez un peu plus de background, je vous renvoie au premier cours de l'an dernier, d'accord, qui est sur les sémantiques mécanisées, où on avait passé en revue un certain nombre de styles de sémantique, en particulier pour IMP. Donc là, on va choisir une sémantique opérationnelle à réduction, qui est un choix très, très courant dans la littérature, et une espèce de généralisation du lambda calcul, d'accord, où la bêta réduction vous fait des étapes de calcul élémentaires. Et donc là, on généralise un petit peu, on va réduire non pas juste des commandes, mais des paires d'une commande et d'un état mémoire qui donnent des valeurs aux variables. Donc C dans S, la commande C dans l'état mémoire avant petit s, peut se réduire en une étape de calcul en C' dans S'. S', c'est l'état mémoire après. Par exemple, s'il y a eu une affectation, S' a changé par rapport à S. Et C', c'est la commande résiduelle, celle qui vous dit ce qui reste à faire, ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, si C, c'était deux affectations en séquence, l'étape va faire effectuer la première affectation, mais il reste la deuxième affectation à faire. Et puis, comme on peut avoir des erreurs à l'exécution, on va aussi avoir la possibilité de se réduire en R, une constante spéciale qui nous dit on a planté, essentiellement. On a divisé par zéro, etc. Et du coup, on peut écrire les règles de réduction. Alors, il y en a beaucoup, et encore une fois, je vous renvoie au premier cours de l'an dernier pour une étude un peu plus progressive, une introduction un peu plus progressive de ces différentes règles. Mais juste pour que vous n'ayez pas peur, je vous les lis très vite. Donc, une affectation x reçoit dans s se réduit en skip, puisqu'il n'y a plus rien à faire une fois qu'on a fait l'affectation, et un état mémoire s modifié, où x reçoit une nouvelle valeur, qui est la dénotation de a dans s. Là, on a les trois règles pour les séquences. Si vous avez skip suivi de C2, eh bien, on peut passer tout de suite à C2. En revanche, si vous avez C1 suivi de C2 et que C1 peut faire une étape de transition vers C1' dans S', alors C1 suivi de C2 fait une transition vers C'1 dans suivi de C2. Et puis, si C1 peut faire une erreur, alors C1 suivi de C2 peut faire une erreur. Pour la conditionnelle, le if B, N, C1, L, C2 se réduit en C1 ou en C2, suivant la valeur de vérité de la condition B. La boucle while B, do C se réduit en skip si la condition est fausse. Il faut que la boucle s'arrête. Et si la condition est vraie, elle se déroule au sens du déroulage en C. On va exécuter le corps de la boucle une fois et puis réexécuter la boucle ensuite. Havoc met une valeur quelconque dans X et se réduit en skip. Une assertion qui est vraie se réduit en skip, une assertion qui est fausse se réduit en erreur. Voilà. Et alors, ce qui est important dans ces sémantiques à réduction, c'est que maintenant on peut former des suites de réduction, essayer d'itérer la réduction, et ça va nous capturer tous les comportements possibles d'une commande. C'est dans un état initial S. Premier comportement, c'est la terminaison. Sans erreur, dans un état final S', et c'est une suite de réduction vers skip et état S'. Là, le programme s'arrête et S' est l'état final. La terminaison en erreur, c'est une suite de réduction qui se finit par R. La divergence, c'est une suite infinie de réduction. Le programme ne s'arrête jamais. Et alors, il y a un quatrième cas de blocage qui est un peu étrange. Donc, c'est au bout d'un certain nombre de réductions, on est dans C'S' qui ne se réduit pas, qui ne fait pas d'erreur, mais qui n'est pas non plus skip. Et ça, je préfère éviter. Ça ne se produit pas avec les règles que j'ai données ici. Donc, on dit que les règles sont complètes. Mais ça peut représenter, par exemple, dans les situations de parallélisme ou de concurrence, un programme qui est bloqué en attente d'un verrou, en attente qu'un autre programme lui fournisse une donnée. Et ça, il n'a pas vraiment terminé, mais il n'est pas encore en erreur, il est juste bloqué. Bon. Et après ce long détour, on peut enfin donc énoncer la correction de la logique vis-à-vis d'une sémantique opérationnelle. Et c'est en fait formaliser l'interprétation intuitive des triplets. Donc rappelez-vous, le triplet faible, PCQ, c'est la commande C, démarrer dans un état initial S satisfaisant P, ne fait pas d'erreur, et si elle termine, l'état final satisfait Q. Et le triplet fort, c'est la même chose, sauf qu'elle termine toujours, et l'état final satisfait Q. Et donc la correction de la logique, c'est de s'assurer que c'est bien vrai de toutes les exécutions possibles de C, d'après la sémantique opérationnelle. Donc voilà plus formellement la correction sémantique de la logique faible. Donc supposons qu'on ait dérivé ce triplet, PCQ, soit S un état mémoire qui satisfait P, des notations de P appliquées à S est vrai. Donc première partie, le programme C est sûr, il est impossible qu'il se réduise en erreur, il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Deuxième partie, correction partielle, s'il termine, donc s'il se réduit en skip dans S', alors Q, la postcondition, est vraie de S', qui est l'état mémoire final. Alors, je vais vous esquisser plusieurs démonstrations de cette propriété. Et alors, j'aime bien la première, même si je ne l'ai pas beaucoup vue dans la littérature, parce qu'elle est inspirée des démonstrations de sûreté des systèmes de type, dont on avait parlé l'an dernier et que certains d'entre vous connaissent certainement. Et donc, elle s'appuie sur un lemme de sûreté et de préservation, qui ressemble beaucoup au lemme de progrès et de préservation qu'on emploie pour les systèmes de type. Et donc, ce que nous dit ce lemme, donc, si on a un triplet, PCQ, et un état mémoire S qui satisfait la précondition, alors on ne va pas planter tout de suite. Donc, C dans S ne peut pas se réduire immédiatement en erreur. Et si C dans S se réduit en une étape en C' dans S'. Alors, on peut trouver une précondition P' qui valide donc, le triplet P'C'Q, donc le résidu C' a la même postcondition Q, mais une précondition différente, et cette précondition est vraie de l'état mémoire intermédiaire S'. Et donc ça, ça se démontre assez facilement par une analyse de cas sur toutes les réductions possibles. Et ça implique la correction sémantique. Parce que maintenant, il suffit d'itérer ce lemme d'une certaine manière. Donc si on a une séquence de réduction qui nous mène à C', S', qui ensuite part en erreur, en itérant la propriété de préservation, on a que C', on a un triplet pour C'. Et la sûreté immédiate nous dit que mais non, C' dans S' ne peut pas se réduire en erreur. Donc ce n'est pas possible. Et puis pour la correction partielle, de même, si C', S' se réduit en plusieurs étapes en skip dans S', là aussi on a par préservation itérée un triplet, P', skip, Q, tel que P' est vrai de S'. Et si vous faites une inversion sur toutes les dérivations possibles pour ça, vous avez que P' implique Q, et donc Q est vrai de S' comme attendu. Donc voilà une démonstration très simple, et qui marche très bien donc pour la correction faible, pour les triplets faibles, la correction partielle. En revanche, si maintenant on veut en plus garantir la terminaison, il va falloir travailler un peu plus dur. Et pour raisonner aussi sur la terminaison, j'aime bien penser en termes de l'arbre des réductions. Donc c'est une espèce de graphe de ces réductions itérées. D'accord, vous partez de C dans S, là on va dire qu'il se réduit en une seule chose, c'est 1 dans S1, donc ça fait un seul arc. Puis là on a un choix non déterministe, par exemple, qui va nous donner 4 réduits possibles. Et puis dans ce choix-là, par exemple, on va avoir une branche infinie, une infinité de réductions. Là on va finir par une erreur, là on va finir par une terminaison normale, skip, et puis là peut-être on est bloqué. Voilà. Et donc l'important, c'est que dans cet arbre, il y a toutes les exécutions du programme possibles. Une exécution du programme, c'est une branche de l'arbre. Et donc, dire que le programme termine toujours, c'est dire que toutes les branches de l'arbre sont finies. D'accord ? Et ça, c'est une propriété qui est inductive. On peut la décrire par un prédicat inductif, au sens de Koch ou de la théorie des types. Et plus précisément, donc, ce prédicat, c'est ce que je note terme CSQ, qui veut dire la commande C démarrée dans l'état S termine toujours, et l'état final satisfait Q. Et c'est défini par deux règles d'inférence. D'abord, skip dans S et Q donc, termine. Skip termine, bien sûr, mais il faut que Q soit satisfait par S. Et maintenant, si vous avez CSQ, pour montrer que terme CSQ, si C n'est pas skip, alors il faut montrer que C dans S ne part pas tout de suite en erreur, et que pour tous les réduits possibles, C', S', ils vont terminer avec la postcondition Q. Et donc, alors c'est un prédicat qui est inductif qui est intéressant, parce que cette quantification ici, elle peut être très très vaste. Pensez à une construction Havok, vous avez une infinité de C', S'. Mais malgré tout, ce prédicat étant inductif, il n'y a pas de branche de dérivation avec une branche infiniment profonde. Et donc ça veut dire que le prédicat est faux si vous avez une séquence infinie de réduction, s'il existe une séquence infinie de réduction. Et donc s'il est vrai, ça veut dire que toutes les réductions terminent. Et qui plus est, terminent sans erreur et terminent dans un état qui satisfait Q. Donc voilà un prédicat extrêmement puissant. Et du coup, on peut s'en servir pour définir un triplet sémantique. Donc, si l'état initial satisfait P, la commande C termine dans un état satisfaisant Q, c'est donc pour tout S, si P de S, alors terme CSQ, et on peut écrire ça avec des doubles crochets pour dire attention, c'est sémantique. Et ce qui est très joli, c'est que cette définition, elle obéit, elle satisfait les axiomes et les règles d'inférence de la logique de Hoare. Vous pouvez les réécrire avec des doubles crochets, donc cette fois-là en termes sémantiques, et les démontrer comme des lemmes. Par exemple, P skip P est vrai, puisque si P de S, alors effectivement, skip termine dans un état satisfaisant P. Alors un peu plus compliqué, donc si c'est un, enfin, P c'est un Q, et Q c'est de R, ça implique P c'est un C de R, et ça c'est parce que, par analyse sur la forme des réductions de C1, C2, etc. Et donc le théorème de correction sémantique de la logique forte, il s'ensuit. Si le triplet PCQ est dérivable, d'après les axiomes et les règles de Hoare, alors le triplet sémantique PCQ est vrai. Et ça, ben, simplement en faisant une récurrence sur la dérivation et puis en appliquant tous ces lemmes. Voilà. Donc, la logique forte et les triplets forts, la logique avec les triplets forts est correcte, sémantiquement. Et du coup, ça. ça explique pourquoi de plus en plus d'auteurs en fait, sautent cette étape d'axiomatiser les triplets PCQ, valides, et prennent directement la définition sémantique. Disant, ben voilà, mon triplet PCQ, il est vrai si pour tout état S satisfaisant P, terme CSQ est vrai. Et du coup, les règles et les axiomes, ils sont plus postulés, ils sont démontrés à partir de la sémantique opérationnelle. Donc ça vous donne des règles et des axiomes qui sont vrais, enfin, corrects sémantiquement par construction, mais qui vous permettent de raisonner exactement comme en logique de Hoare. Donc, d'une certaine manière, rien n'est perdu. Alors, ce n'est plus vraiment dans l'esprit axiomatique de Hoare, mais ça simplifie certaines choses, en particulier l'ajout de règles a posteriori. Si on a oublié une règle, c'est plus facile de la dériver comme un lemme supplémentaire sur l'évaluation des termes de votre langage. Voilà. Et alors, revenons un peu sur cette... Continuons dans cette idée de triplet sémantique. Donc, on les a introduits pour la logique forte, parce que ça nous permettait de raisonner plus facilement sur la terminaison, mais ça marche aussi pour la logique faible. Donc il faut remplacer ce prédicat, terme CSQ, qui garantit la terminaison, par un prédicat, safe CSQ, qui est un peu plus faible, donc qui dit que les exécutions de C dans S ne terminent pas en erreur, et que si elles terminent, alors l'état final satisfait Q. Mais on peut aussi avoir des exécutions infinies. Et du coup, ça permet de définir un triplet sémantique faible, comme ceci. D'accord ? Et alors, comment on définit ce safe ? Et moi, j'aime bien le définir de manière co-inductive. Donc, de même que la terminaison, c'est naturellement inductif, parce qu'on veut éliminer toutes les dérivations infinies, toutes les branches d'exécution, toutes les branches qui correspondent à des exécutions infinies. Pour moi, le prédicat safe est naturellement co-inductif, donc vous prenez exactement les mêmes règles que pour terme, mais vous prenez une interprétation co-inductive, donc un plus grand point fixe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence ? Ben, donc, tout ce qui était vrai dans l'interprétation inductive, terme, est vrai dans l'interprétation co-inductive, safe, mais le prédicat co-inductif vous permet d'avoir des dérivations infinies en profondeur. Et en particulier, on peut appliquer cette règle infiniment souvent, ce qui correspond en fait à justifier une divergence, une séquence infinie de réduction. Voilà, donc juste en changeant la nature de ce prédicat, de inductif à co-inductif, on passe d'une logique forte à une logique faible. Alors, ceci dit, bon, la manipulation des définitions co-inductives est parfois un peu délicate. C'est bien de s'aider d'un assistant à la démonstration, comme Koch, mais même dans Koch, c'est un peu difficile parfois. Et donc, la plupart des auteurs préfèrent utiliser la technique du comptage de pas, donc step indexing, en anglais. Alors, on en avait parlé dans le cours il y a 2 ans. L'idée du step indexing, c'est de considérer des exécutions d'O plus N étapes, d'accord, élection de C dans S d'O plus N étapes, et de vérifier donc que, 1, elles ne font pas d'erreur en N étapes, et si elles terminent en O plus N étapes, alors l'état final satisfait Q. Donc ça, c'est le prédicat safe N CSQ que vous voyez ici. Et donc ce qui est important, c'est qu'il y a un cas de base, safe de 0 est toujours vrai. En 0 étape, une commande ne peut pas planter, mais elle ne peut pas terminer non plus. Donc, a priori, elle est sûre. Et puis, donc, skip est sûr si Q est satisfait par l'état S. Et puis, C dans S est safe en N plus une étape si c'est réduit, ses prime S prime sont safe en N étapes. Et donc, une fois qu'on a ainsi coupé arbitrairement la durée des exécutions, eh bien, on fait tendre N vers l'infini. Donc on dit qu'un programme est sûr, donc ne plante pas et satisfait Q quand il termine, si, quel que soit le nombre d'étapes considérées, il est sûr. Voilà. Et en fait, on peut montrer l'équivalence entre cette définition et la définition co-inductive qui est ici. Hein. C'est juste, on n'est pas en train de définir une autre notion, on est en train de définir une notion avec un autre principe de preuve. Donc ici, on démontre par co-induction, par plus grand point fixe, et ici, on peut faire des récurrences sur N, qui est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus élémentaire en tout cas. Voilà, et donc, quelle que soit la manière dont vous définissez safe, donc pour conclure, on peut faire, on peut définir un triplet faible sémantique, PCQ, avec des doubles accolades, qui dit donc si P est vrai de S, alors safe CSQ est vrai, montrer qu'il satisfait les axiomes et les règles de la logique de Hoare faible, P skip P, la règle de la séquence. Alors la règle de la boucle while est intéressante puisque c'est elle qui peut faire apparaître une divergence. D'accord, donc c'est là, en fait, en prouvant cette règle, qu'on voit comment fonctionne vraiment le prédicat safe, etc. Et conclure donc une autre manière, par une autre démonstration, la correction sémantique de la logique faible. Si le triplet syntaxique PCQ est dérivable, alors le triplet sémantique est vrai. Voilà. Alors, juste, oui, j'ouvre une parenthèse avant que j'oublie de le dire. Donc, les résultats dont je parle, bien sûr, je les ai démontrés en coq, parce que ça m'aide pour m'assurer que je ne raconte pas trop de bêtises. Et modulo problème de transcription. Donc, j'ai mis le développement coq à disposition. Il y a un pointeur donc, dans les références des transparents, à la fin des transparents de secours, et vous le trouverez aussi sur mon GitHub, mon Xavier Leroy sur GitHub. En revanche, donc contrairement à l'an dernier, je ne vais pas faire une lecture commentée du développement coq avec vous. D'accord, la mécanisation de ce qu'on est en train de montrer n'est pas vraiment le sujet du cours. Mais voilà, c'est aussi pour vous rassurer que essentiellement tout ce que je vais montrer est mécanisable. Et si vous préférez suivre sur un développement coq ou en plus avoir le développement coq en plus des transparents, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc comme ça, c'est dit, et je n'oublierai pas. Donc, je crois que c'est tout pour la correction sémantique. Mais alors maintenant, on va parler un petit peu de complétude de la logique. Alors, c'est une question qui a beaucoup agité la communauté d'informatique fondamentale dans les années 70. Et vous allez voir pourquoi. Donc, la complétude d'une logique de Hoare, c'est la réciproque de la correction sémantique. Est-ce que toute propriété vraie des exécutions d'un programme C peut être exprimée sous forme d'un triplet de Hoare, PCQ, et dérivée à partir des règles de Hoare? Ou bien est-ce qu'il y a des propriétés utiles des programmes qu'on ne peut pas exprimer ou montrer avec une logique de Hoare? Et si on a nos triplets sémantiques, on peut poser la question plus précisément. C'est que si un triplet sémantique est vrai, d'accord, d'une commande C, ce qui est une propriété de toutes ces exécutions, peut-on dériver le triplet syntaxique correspondant juste à partir des règles et des axiomes de Hoare? Et alors pourquoi cette question a beaucoup intéressé les gens dans les années 70? C'est parce qu'elle fait un lien entre la logique de Hoare et la calculabilité. Un des corollaires de la correction sémantique, c'est que si vous pouvez dériver le triplet suivant, précondition vraie, commande C, postcondition faux, alors la commande C ne termine jamais. D'accord ? Parce que si elle terminait, la postcondition ne pourrait pas être vraie. Et si la logique de Hoare était complète, on aurait une équivalence. On peut dériver ce triplet, vrai, C, faux, si et seulement si C ne termine pas. Et alors c'est là qu'il se passe quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer. Ça tourne autour de la notion d'ensemble récursivement énumérable. Donc, je vous rappelle qu'un ensemble récursivement énumérable, donc c'est un ensemble infini a priori, mais il y a un processus qui énumère les éléments. Donc en temps fini, étant donné un élément de l'ensemble, en temps fini, votre processus va le produire. D'accord. Et quand on a un système d'axiomes et de règles, d'inférences, l'ensemble des énoncés dérivables est récursivement énumérable. D'abord, on énumère tous les axiomes ou toutes les instances des axiomes, puis après tout ce qu'on peut obtenir à partir des axiomes en appliquant une règle, puis deux règles, puis trois règles. Et on entrelace tout ça et ça fait une énumération. Et donc, l'ensemble des triplets de Hoare, PCQ, dérivables, dans la logique de Hoare, est donc récursivement énumérable. Et donc, l'ensemble des triplets vrai, C, faux, dérivable, est récursivement énumérable. Il suffit d'énumérer tous les triplets et puis de filtrer. Si P est vrai et Q est faux, alors je produis, sinon je passe au suivant. Je ne dis pas que c'est très efficace comme algorithme, mais encore une fois, on fait de la calculabilité ici, l'efficacité n'a aucune importance. Et donc, si la logique est complète, l'ensemble des programmes C qui ne terminent pas est récursivement énumérable. Par conséquent, si la logique est complète, le problème de l'arrêt est décidable pour votre langage. Pourquoi ça? Parce que, étant donné une commande C, je veux décider si elle s'arrête ou si elle diverge. Donc je lance un processus qui évalue C. qu'il exécute. Si c'est termine, ben, il va finir par terminer. Et me dire, c'est termine. Et de l'autre côté, je lance mon énumération de tous les programmes qui ne terminent pas. Et dès que je vois apparaître mon programme C, j'arrête en disant C ne termine pas. Forcément, un de mes deux processus doit s'arrêter. Et donc, en temps fini, j'ai décidé de l'arrêt de C. Donc, bien sûr, si votre langage est Turing complet, le problème de l'arrêt n'est pas décidable et donc la logique n'est pas complète. C'est juste pas possible. Et alors, quand on creuse un petit peu pour essayer de comprendre d'où vient le problème, est-ce que ça vient d'une règle de Hoare en particulier ou... Donc, en fait, ça vient de la règle de conséquence, qui est en fait une règle extraordinairement puissante dans la logique de Hoare, parce qu'elle vous donne accès à toute la puissance d'une certaine logique qui va permettre de prouver ses implications, P implique P', Q implique Q'. Et justement, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces implications? Qu'est-ce que ça signifie, ces prémices? Il y a au moins deux interprétations possibles. Il y a une interprétation à la Hoare, ce sont des implications dérivables dans une logique formelle, avec un ensemble de règles et d'axiomes. À ce moment-là, l'ensemble de ces implications est récursivement énumérable. Donc effectivement, les triplets de Hoare sont récursivement énumérables, mais la logique est incomplète, de la même manière que cette logique formelle est incomplète, d'après le premier théorème d'incomplétude de Gödel. Il y aura toujours une implication qui est vraie dans tous les modèles, mais que vous n'arriverez pas à dériver de votre système formel. Bon. Et l'autre interprétation ici, c'est justement de dire que ces implications, c'est par exemple les implications qui sont vraies dans tous les modèles. Mais à ce moment-là, vos triplets de Hoare, P, C, Q, ne sont plus récursivement énumérables. L'ensemble des P implique P', qui sont vrais dans tous les modèles, n'est pas récursivement énumérable. Donc, l'honneur est sauf, d'une certaine manière. On a compris. L'incomplétude, elle vient de ici. Et du coup, on peut énoncer un résultat de complétude relative. C'est tiré d'un très bel article un peu compliqué, mais vraiment très bien fait, de Stephen Cook, le monsieur qui a inventé la NP-complétude, qui montre en substance que la logique de Hoare est complète si on utilise la même logique ambiante, à la fois pour interpréter ses implications dans les règles de conséquence et pour définir le triplet sémantique. D'accord ? Et l'incomplétude vient de si, par exemple, ici, vous utilisez une axiomatisation d'une certaine logique, et ici, vous utilisez vrai dans tous les modèles, comme définition de votre implication. Et alors, la démonstration de ce résultat est très, très jolie, car il utilise une notion de plus faible précondition, dont on va reparler dans quelques minutes ensuite. Donc, c'est étant donné une commande et une postcondition Q, est-ce qu'on peut trouver une précondition minimales qui garantissent le triplet PCQ. Alors, on peut utiliser notre définition sémantique pour ça. D'accord, la précondition minimale, c'est l'ensemble de tous les S, états mémoire initiaux, tels que CSQ est sûr. CSQ ne plante pas. Et s'il termine en satisfaisant Q. Et donc, on peut réécrire notre triplet sémantique comme P implique VPSM de C et de Q. D'accord. Puisque si P de S, si P implique VPSM de C de Q, alors P de S implique VPSM CQS, c'est-à-dire CFCSQ, et donc ce qu'on voulait. Donc ça, c'est juste un jeu d'écriture, une manière différente d'écrire le triplet sémantique. Le résultat qui est vraiment joli, c'est que la plus faible précondition sémantique est dérivable syntaxiquement. Et donc ce triplet VPSM CQ est dérivable à partir des règles et des axiomes de la logique de Hoare. Alors, la démonstration n'est pas complètement évidente. Hein. Il faut faire des inversions un peu intéressantes sur le prédicat safe. Par exemple, à quelles conditions une séquence est safe? Et là le VPSM apparaît très naturellement comme post-condition de la première partie de la séquence. Encore une fois, c'est fait dans le développement Coq. Et une fois qu'on a ça, ben, on a notre théorème de complétude relative. Donc, si le triplet sémantique est démontrable dans une certaine logique L, alors le triplet syntaxique est dérivable dans la logique de Hoare qui utilise la même logique L pour sa règle de conséquence. Et ça, ben, c'est très simple. Donc, par le lemme, on sait dériver syntaxiquement VPSM CQ CQ. On a par ailleurs que P implique VPSM CQ, par l'hypothèse. Et donc, on applique la règle de conséquence en utilisant la même implication qui devient de sémantique à syntaxique pour conclure le triplet syntaxique PCQ. Et donc, on a cette complétude relative. Voilà, donc ça, ça explique un peu le mystère autour de, le petit mystère autour de cette notion de complétude. Et ça montre aussi donc, la très grande expressivité de la logique de Hoare. D'une certaine manière, voilà, spécifier et prouver un programme à l'aide d'une logique de Hoare, on ne perd rien. C'est généralement plus commode que de prouver directement sur les exécutions concrètes, mais on peut quand même montrer les mêmes propriétés à la fin. Bien, et donc pour finir, je voulais parler justement un petit peu de... revenir un peu sur ce calcul de plus faible précondition et montrer dans quelle mesure ça va vers l'automatisation. Et ça, après, le séminaire donc de Loïc Corançon sur Pharmacie WP va montrer comment ça marche vraiment dans un vrai système, cette automatisation. Et la semaine prochaine aussi, le séminaire de Yannick Moy sur Spark. Mais donc là, je vais juste vous donner un peu l'intuition et puis les bases théoriques qui justifient l'approche. Donc ça, c'est un rappel du premier cours, donc sur l'approche générale de vérification déductive. Donc on a un programme annoté par des assertions qu'on combine ensemble à l'aide d'une logique de programme et suivant les règles d'une logique de programme, et ça va nous produire des conditions de vérification, donc qui sont des implications en logique usuelle. C'est plus une logique de programme, on parle plus du programme, on a juste des formules de logique. Et si on arrive à montrer ces conditions de vérification, alors le programme satisfait bien sa spec, ses assertions. Et pour ça, on va faire de la démonstration manuelle ou automatique ou interactive, assistée par l'utilisateur. Et donc là, il y a deux questions qui se posent. Comment, quel algorithme permet d'engendrer ces conditions de vérification? Et puis aussi, est-ce qu'au passage, on peut minimiser la quantité d'assertions à fournir à la main pour automatiser davantage l'approche, faciliter le travail donc, du programmeur qui est censé donner ses assertions? Alors, il y a un extrême, c'est les programmes complètement annotés, comme on les a vus tout à l'heure, d'accord. Donc là, on a essentiellement une annotation par ligne, par construction élémentaire du programme, et les conditions de vérification, c'est juste les étapes où on fait des implications logiques, d'accord. Sinon, tout le reste peut se vérifier juste en appliquant les règles de la logique de Hoare. Donc, tout ce qui reste à vérifier, ce sont ces implications. Donc, que la précondition implique bien ça, que l'invariant de boucle est bien un invariant de boucle, et que la postcondition est bien assurée à la fin. Mais en fait, on n'a pas besoin de fournir toutes ces annotations. Elles sont extrêmement redondantes, et la majorité peuvent être calculées à partir d'autres annotations, et ça, Floyd déjà l'avait souligné dans son article de 67. En fait, pour vérifier un programme ou un sous-programme C, il suffit de lui donner la précondition P, sa postcondition Q, et un invariant de boucle pour chaque boucle contenue dans C. D'accord ? Et à ce moment-là, comme on va le voir ici, donc les autres assertions logiques et toutes les conditions de vérification s'obtiennent par un calcul. Donc un algorithme qui s'appelle un calcul de plus faible précondition ou de plus forte postcondition. Alors l'idée des plus faibles préconditions préconditions, c'est donc vous avez une commande C, vous avez une postcondition Q. Donc Q c'est ce que la commande C est censée calculer. D'accord, ça caractérise votre attente vis-à-vis de la commande C. Et maintenant, on essaye de trouver une précondition, VPC de Q, qui va donc caractériser les états initiaux dans lesquels la commande va réussir, va terminer même, et va satisfaire la postcondition. Donc, ce VP, weakest precondition en anglais, c'est VPC de Q, c'est une précondition, il faut que ce triplet soit vrai, VPCQ, CQ. Et on voudrait que ce soit la plus faible, c'est-à-dire que toutes les autres préconditions P qui valident PCQ impliquent cette précondition. Et du coup, en fait, ça donne une autre manière d'écrire les triplets dehors. Donc PCQ est vrai si et seulement si P implique WP de C et de Q. Encore une fois, pour le moment, c'est un peu un jeu d'écriture, mais on va voir que VP de C et de Q est calculable, ou presque. Donc ça va nous automatiser un bon nombre d'étapes de raisonnement. Alors oui, donc j'ai déjà donné cette première intuition, que le VP et CQ, ça vous donne les hypothèses nécessaires pour que le code C calcule bien le résultat décrit par la postcondition Q. Mais en fait, donc cette notion elle a été introduite par Dijkstra dans un très bel article de 1975. Dijkstra, lui, il voulait synthétiser le code C, donc l'obtenir par raffinement. L'idée, c'est que je pars d'une postcondition qui me dit tout ce que doit faire mon algorithme, calculer une division euclidienne. Et maintenant, par raffinement successif et calcul de weakest precondition, je vais pouvoir à la fois former mon programme, le préciser incrémentalement, et trouver sa précondition. Et de même, donc, cette manière d'écrire les triplets dehors est très présente dans les travaux de Dijkstra et dans toute l'école hollandaise de vérification déductive. Alors, ce n'est pas le seul... donc, ce weakest precondition, c'est ce qu'on appelle un transformateur de prédicat. Alors, ce n'est pas un terme très joli, mais c'est l'idée que la commande C peut être vue comme une espèce de fonction qui prend sa postcondition et renvoie sa précondition. Et donc transforme un prédicat qui est la postcondition en un prédicat qui est la précondition. Alors il y en a d'autres. Il y a la plus faible précondition libérale, weakest liberal precondition, VLP, qui est comme WP mais qui ne garantit pas la terminaison. Et donc elle vous permet juste de montrer un triplet faible, PCQ. Et puis on peut raisonner dans l'autre sens, sous forme de plus forte postcondition ou plus forte postcondition libérale. Donc là, on se donne la précondition P et on calcule la postcondition Q. Et on veut que ce soit la plus forte, c'est-à-dire celle qui implique toutes les autres postconditions possibles, comme vous le voyez ici, sur ces deux équivalences. Et là, l'intuition est un peu différente, c'est plutôt une intuition d'exécution symbolique. Vous avez un programme C, vous savez les choses sur l'état initial, X et Y sont deux variables positives, par exemple, et vous voulez, d'une certaine manière, caractériser l'état final sous forme d'un prédicat. Et donc ça c'est ce que Floyd avait commencé à esquisser dans son article. Mais dans la pratique, comme on le verra rapidement, les calculs de plus faibles préconditions fonctionnent beaucoup mieux. Et donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés davantage. Non. Alors, comment on calcule la plus faible précondition libérale, disons. Alors, il y a une caractérisation qui est vraie, mais qui ne vous donne toujours pas un algorithme. On peut dire que la plus faible précondition de C et de Q, c'est le OU logique de toutes les préconditions. Bon, mais comme elles sont en nombre infini, c'est une disjonction que vous n'arriverez pas à calculer. En revanche, si votre programme n'a pas de boucle, il y a une définition récursive sur C, ou une caractérisation qui est récursive sur la structure de la commande C. Par exemple, la plus faible précondition libérale pour skip, c'est la postcondition elle-même, d'accord. Donc c'est Q. La plus faible précondition pour une affectation X reçoit A, c'est la règle de Hoare, c'est Q où X est remplacé par A. La plus faible précondition pour une séquence, l'idée c'est que vous faites la plus faible précondition pour la deuxième partie de la séquence, c'est une espèce d'exécution à l'envers, d'accord. Pour que Q soit vrai à la fin de la séquence C1-C2, il faut que Q soit vrai à la fin de C2. Pour ça, il faut que VLP C2 de Q soit vrai au début de C2, c'est-à-dire que VLP C2 de Q soit la postcondition de C1, et après on reprend un coup de VLP, et ça nous donne bien la précondition pour C1, C2. Même chose pour un if then else, donc on calcule les préconditions de la branche else et de la branche then, et on les combine, en disant que bon, la branche then elle est prise seulement si B est vrai, et la branche else seulement si B est faux. La précondition du havoc, celle qui met n'importe quoi dans n'importe quelle valeur dans X, donc c'est Q où X est remplacé par n'importe quel N. Et la précondition d'un assert A, c'est A et Q. D'accord, il faut que Q soit vrai, mais il faut aussi que l'assertion soit vraie. Et alors les équations sont écrites pour la plus faible précondition libérale, donc pour les triplets faibles, mais ça marche aussi bien pour WP, la plus faible précondition tout court, c'est-à-dire les triples formes. Et comme d'habitude, le problème, c'est la boucle. D'accord ? En général, la plus faible précondition libérale pour une boucle n'est pas calculable. Alors, vous pouvez essayer de la caractériser en déroulant la boucle, en disant, voyons, si la boucle s'exécute 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous obtenez cette grosse disjonction des PI, qui sont définis récursivement sur I, le nombre de tours de boucle, comme ceci. Mais encore une fois, donc, tout ça n'est pas calculable en général, et c'est vraiment très rare qu'un système puisse automatiquement inférer un invariant de boucle. Bon, alors c'est vrai si on réduit fortement le langage des assertions, par exemple en interprétation abstraite, quand on réduit notre langage d'assertion pour être juste un domaine abstrait, là on sait calculer des invariants de boucle, mais si on a une logique plus générale, on ne sait pas. Et du coup, on demande au programmeur de l'aide. Donc on va demander au programmeur d'annoter chaque boucle par son invariant, que je note ici en exposant de la boucle. Et du coup, ben on va dire la plus faible précondition pour une boucle while annotée par inf, c'est l'invariant, d'après la règle de Hoare. Mais on ne peut pas non plus quand même faire complètement confiance au programmeur. Peut-être qu'il n'a pas donné le bon invariant, peut-être qu'il a donné vrai comme invariant, ce qui a peu de chances d'être un invariant. Non, ou faux, enfin bref, peu importe. Un mauvais invariant. Et donc, il faut à ce moment-là rajouter des conditions de vérification. Donc, il faut que ces deux implications soient vraies. Il faut que si B est faux, si on sort de la boucle, l'invariant doit impliquer la postcondition Q qu'on se donne pour la boucle. Et si B est vrai, et l'invariant aussi, il faut que ça implique la plus faible précondition du corps de la boucle, qui lui-même doit rétablir l'invariant à la fin, donc la plus faible précondition du corps de la boucle C avec l'invariant comme postcondition. Voilà, donc on voit apparaître deux conditions de vérification. Alors, et maintenant, si vous êtes en WP, donc vous voulez garantir en plus la terminaison, il faut annoter aussi la boucle par le variant, cette fameuse expression qui va garantir la terminaison, et ça va vous donner une obligation de preuve supplémentaire, une condition de vérification supplémentaire. Et donc, à la fin, ça nous donne un semi-algorithme pour la vérification déductive. Donc, on veut vérifier un triplet PCQ. Donc P et Q ont été fournis par le programmeur, et le programmeur a aussi donné des boucles, des invariants sur les boucles. Donc on calcule la plus faible précondition libérale, VLP et CQ, on calcule les conditions de vérification que je note ici, VC et CQ, et qui sont juste en fait collecter les implications comme ça qui apparaissent au niveau des boucles et puis dans les sous-termes. D'accord. Et maintenant, eh bien, il faut démontrer d'abord que toutes les conditions de vérification sont vraies, ce qui prouve la cohérence des invariants de boucle en particulier, et démontrer que P implique la plus faible précondition de C et de Q, ce qui montre bien la correction du triplet. Et ce qui est joli, c'est que ça, c'est une formule de logique usuelle. On ne parle plus du tout du programme, c'est juste des implications entre prédicats. Et on a donc essayé de s'aider d'un démonstrateur automatique, lequel ne va pas forcément y arriver, c'est pour ça que c'est un semi-algorithme. Mais voilà, donc c'est l'idée de base de la vérification déductive. Et c'est donc ce qui se passe en pharmacie WP, par exemple, comme on l'a vu la semaine dernière sur l'exemple de la recherche dichotomique, ou comme on va le voir dans le séminaire de Loïc Corançon. Alors, pour mémoire... Donc je vous donne les équations pour les plus fortes postconditions libérales. D'accord. Vous voyez que ce n'est pas très différent, si ce n'est que pour l'affectation, on a cette horrible formule de Floyd qui fait apparaître des quantifications existentielles que les démonstrateurs automatiques n'aiment pas du tout, du tout. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas employé. Et les conditions de vérification non triviales, il y en a une de plus pour les assertions. Voilà. Mais sur le papier, c'est tout à fait utilisable également. Voilà, je crois être arrivé à la fin de ce cours, donc un petit point d'étape, puis on va faire une pause ensuite. Donc que dire sur la logique de Hoare ? Clairement, c'est un formalisme très riche et aussi qui vraiment pose plein de questions intéressantes et caractérise plein de choses sur la manière dont les programmes s'exécutent. Alors on a deux visions parfaitement complémentaires, on peut tout à fait passer de l'une à l'autre à tout moment. La vision axiomatique, qui est la vision d'origine de Hoare, on pose des règles et des axiomes, et ça définit la logique et la sémantique du langage, en fait. Et la vision plus opérationnelle, le langage est spécifié différemment, dans le style opérationnel, et les axiomes et les règles de la logique sont en fait des lemmes, des théorèmes, qui sont vrais de toutes les exécutions et facilitent le raisonnement sur les exécutions des programmes. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, il aurait fallu montrer plus d'exemples sans doute, c'est que la logique de Hoare s'étend assez facilement à de nombreuses structures de contrôle. Donc, on a vu, par exemple, le go-to, on a vu plusieurs formes de boucles, mais on peut aussi ajouter des choses comme le break ou le return, donc des terminaisons abruptes. On peut ajouter des exceptions. On peut ajouter les procédures, alors ça demande un petit peu plus de travail parce qu'il y a les questions de portée de variables qu'il faut prendre en compte. Mais en gros, les idées de base de la logique de Hoare sont très très robustes vis-à-vis d'autres formes de contrôle. En revanche, pour le moment, on n'a pas vu de structure de données, on manipule des entiers. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, dès qu'on ajoute des structures de données, les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, quand c'est juste des tableaux, on y arrive assez bien. Mais dès qu'on a des structures de données chaînées à l'aide de pointeurs, c'est là qu'on commence à se poser des questions sur la logique de Hoare et sur peut-être la nécessité d'autres logiques, en particulier les logiques de séparation. Donc ça, ce sera le sujet du prochain cours. Et pour finir, j'ai mis une petite bibliographie pour aller plus loin. Donc ça, c'est deux textbooks, deux livres de classe, deux livres de cours, dont le premier suit l'approche plutôt opérationnelle. On parle d'une sémantique opérationnelle et on déduit les règles de la logique. Et donc c'est juste les chapitres 9 et 10. Et l'autre, qui est un peu plus ancien, le livre de Winskull, qui lui suit l'approche axiomatique classique et contient une discussion extrêmement complète de la question de la complétude de la logique de Hoare. En particulier, bon, j'ai passé sous silence quelques petites choses dans ma discussion. Par exemple, j'ai supposé que ma logique ambiante, elle, était suffisamment puissante pour exprimer des prédicats inductifs comme safe. Ce n'est pas strictement nécessaire, mais il faut employer des codages de Gödel et des choses un petit peu plus compliquées. Et tout ça est bien expliqué dans le livre de Winskull. Et puis, donc, si vous vous intéressez à la mécanisation de ces résultats, donc le développement Coq qui correspond à ce cours est disponible ici et j'essaye de l'enrichir à chaque cours. Mais il y a aussi, excusez-moi, un très bon traitement dans le livre Concrete Semantics de Nipkow et Klein, qui utilise Isabelle Achoël et pas Coq, mais c'est traité de manière extrêmement claire. Voilà, ben je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.